vient d'arriver en studio son, son paquet.
Ça capte bien, là.
Une fois, ça suffit, tu sais. Une fois, il vient donc d'arriver en studio son paquet de nouvelles fraîches sous le bras. Martin est là. Bonsoir, Martin.
Bonsoir, Elisabeth.
Ce soir, on chasse la propriété de vos données.
Eh oui, j'y ai pensé parce qu'il y a quelques jours sur Facebook, un de mes amis a publié un de ses messages écrits dans un langage vaguement juridique et que l'on retrouve parfois copié-collé d'un mur à l'autre. Le message qui dit en gros « Je déclare par la présente que je conserve la propriété intellectuelle de tout ce que je publie sur mon profil et mon consentement sera nécessaire à toute utilisation commerciale. »
Mais bien sûr.
Bah, ce genre de message, on en voit tourner de temps en temps sur le réseau social. En fait, ça date de son introduction en bourse en 2012. Évidemment, en première lecture, c'est un peu surprenant parce que ça n'a aucune valeur juridique. Hein. C'est une décision unilatérale, ça n'engage pas du tout Facebook. Et surtout, lors de son inscription, chaque utilisateur a indiqué qu'il accepte les conditions d'utilisation du site. Et ça, c'est contractuel. Et ces conditions d'utilisation affirment que l'utilisateur concède à Facebook une licence quasi illimitée et non rémunérée pour la réutilisation des contenus couverts par la propriété intellectuelle.
Uh-huh.
Et c'est dans l'article 2, hein, c'était pas si dur à trouver. Donc ça veut dire en gros qu'on conserve en fait la propriété intellectuelle de ce qu'on publie sur le site, par exemple les photos. Mais juridiquement, Facebook a le droit de s'en servir pour tout et n'importe quoi, ses publicités, c'est déjà arrivé. Mais en tout cas, ils ont le droit, bon, jusqu'à ce qu'on supprime les contenus du site, mais ça arrive quasiment jamais.
Mmh.
Alors, le message pseudo-juridique dont je parlais, dans le fond, c'est plutôt le signe d'une prise de conscience qu'on est bien peu de choses face à cette grande machine opaque qu'est un réseau social. Il y a une dizaine d'années, quand on parlait encore de Web 2.0, tout le monde se ruait sur ces sites qui nous permettent de publier tout ce qu'on veut. À l'époque, on y voyait une magnifique démocratisation de la publication. C'était le moyen pour chacun de faire entendre sa voix, youpi. Maintenant, avec le recul, on peut dire que l'enthousiasme est franchement retombé. On se méfie de plus en plus de ce que les théoriciens du réseau appellent à présent les plateformes. Alors, plateforme, c'est le mot à la mode pour désigner à la fois les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites de partage de photos, de vidéos, les places de marché, les vendeurs d'applis mobiles, j'en passe, et j'emprunte ces exemples au Conseil d'État. Car le terme est même arrivé jusqu'à leurs oreilles. Et dans son rapport consacré au numérique, publié au début du mois, le Conseil d'État recommande carrément de faire des plateformes une nouvelle catégorie juridique, avec, je cite, « une exigence de loyauté envers ses utilisateurs ». Ce qui reviendrait à dire que la loi demanderait aux plateformes d'être gentilles, je n'ai pas bien saisi, mais comme pour la neutralité du net d'ailleurs, leurs propositions sont sans doute trop détachées de la technique pour être applicables. Mais il y a encore plus fort. Le Forum d'Avignon nous a sorti une proposition de déclaration des droits de l'homme numérique.
Waouh, c'est beau.
Alors, si vous en avez jamais entendu parler, sachez que le Forum d'Avignon est un think tank qui médite sur la culture en tant qu'objet économique. Ça commence mal. Et comme son nom ne l'indique pas, le Forum d'Avignon se tenait la semaine dernière à Paris, où ils ont donc sorti leurs droits de l'homme en grande pompe avec une pluie de buzzwords éthico-technologiques. Je vous laisse lire ça sur ddhn.org. Ça consiste en 8 points très vagues, qui seront d'ailleurs sans doute obsolètes dans une dizaine d'années. Ils ont oublié ce détail-là. En résumé, bon, ces droits de l'homme numériques me rappellent un peu l'époque où Google essayait de nous faire avaler son « Don't be evil ». Non merci. Donc je crois en fait que toutes les plateformes ont un point commun très simple, c'est que leur propriétaire a les pleins pouvoirs sur son territoire numérique. Pop. On aura beaucoup de mal à faire changer cette dure réalité juridique, et généralement le propriétaire est une brave société par action qui cherche donc à monnayer tout ce qu'elle peut. Et son fief est un site internet ou une appli mobile, hein, et dans tout cela, ce sont les utilisateurs qui apportent tout le contenu. Donc toute plateforme normalement constituée s'efforce d'avoir l'air sympa avec sa populace, et surtout elle n'abuse pas de leur pouvoir de réutilisation des données, en fait, pour ne pas faire fuir les utilisateurs. Facebook est un spécialiste des reculades là-dessus. C'est ce qui fait toute l'ambiguïté de la situation actuelle, mais... Pour mieux comprendre ce qui se passe, finalement, il faut dépasser le discours marketing et ne plus considérer les plateformes comme des outils, mais juste comme des silos de données. Car les bases de données sont le vrai trésor de guerre des plateformes. Et silos de données, ça leur va si bien parce qu'un silo, par définition, est bien fermé. Par exemple, ce qui fait la force des fameux Blablacar et autres Le Bon Coin, C'est pas du tout la qualité, le design ou je ne sais quelle performance de leur site, c'est juste qu'ils ont la plus grande collection d'offres. On y va non pas pour l'outil, le logiciel, mais plutôt pour les données. Et on remarque en passant que ce qui fait toute la puissance d'une plateforme, c'est la taille de son silo de données, c'est-à-dire son caractère monopolistique. La possibilité d'une concurrence entre plateformes ne nous sauvera pas. Et si vous y croyez quand même, je vous rappelle que même Google n'a pas réussi à supplanter Facebook, hein, avec Google+. Ou alors, il faudrait espérer que les plateformes se mettent à échanger leurs données, alors elles se feraient vraiment concurrence sur la qualité des logiciels, ce qui n'a aucune chance d'arriver. Donc, en plus, ça pose des contraintes techniques énormes. Hein. En 2014, l'interopérabilité est encore un concept super abstrait, un peu comme les voitures volantes et les imprimantes qui marchent. Donc, bon, Internet, comme l'informatique, est encore jeune, alors on sait jamais, un logiciel du futur pourra peut-être crever les silos, je l'espère. Mais en attendant, pour déplacer notre triste condition de prolo du net, on n'a plus qu'à se construire chacun son petit grenier à grains numériques, et pourquoi pas, peut-être même ouvrir des coopératives de données. On voit aussi apparaître des logiciels libres portés sur l'auto-hébergement, hein, c'est exactement ça, mais tout ça est encore un peu technique pour l'internaute lambda. Soit dit en passant, c'est principalement pour ça que certains proposent d'apprendre la programmation à tout le monde.
D'accord.
Donc pour reprendre la main sur votre journal et vos œuvres, en l'état actuel, on n'a pas mieux à proposer que de geeker longuement. Bon, c'est du boulot, mais c'est intéressant. En tout cas, ce sera plus efficace que de publier des messages pseudo-juridiques sur un réseau social.